Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toi qui écoute le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h passé de quelques petites minutes et c'est comme presque tous les dimanches, l'heure de la causerie. Ce soir, retour donc dans les studios en équipe complète à la technique. Nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir, mais pas à la technique. Et bonsoir, Jean-Yves.
Tout à fait. Bonsoir. Sinon, je l'aurais précisé. Et puis les gens s'en seraient rendus compte.
Toujours aussi agréable. Après 3 semaines sans être là, hop, ça lui manquait.
Non, je ne changerai pas, malheureusement. comme à notre habitude aussi, on va vous rappeler évidemment comment nous joindre, nous écouter, etc., etc. Donc si vous voulez nous écrire, si c'est pour commenter, si c'est pour nous proposer une émission, si vous êtes une asso, un collectif, un artiste, une artiste, musicien, musicienne, plasticien, plasticienne, théâtreux, théâtreuse, enfin tout ce que vous voudrez, n'hésitez pas, vous nous écrivez donc un mail à lacauseriecanu@gmail.com. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez écouter, enfin en tout cas pour celles et ceux qui écoutent les podcasts, etc., ça se passe sur le blog de l'émission. C'est aussi là où on vous invite vraiment à laisser vos commentaires, parce que ça appartient à Radio Canu et personne ne se fait d'argent dessus.
Et tu veux dire pour les plus jeunes, parce que les podcasts sont écoutés à 75% par les moins de 25 ans.
Tout à fait.
Donc c'est cool.
Mais bien sûr.
Donc on espère en avoir.
Oui, tout à fait. Donc c'est sur le blog de l'émission que ça se passe, c'est à blogs avec un S, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez retrouver notre blog.
Dans les diffuseurs de podcasts aussi.
Aussi, évidemment, c'est ce que j'allais dire, sur les différentes plateformes d'écoute, etc. Vous retrouvez aussi la causerie Radio Canu et puis sur le réseau socio-commercial de Mark Zuckerberg, donc Facebook, hein, pour ne pas le cité. Nous sommes aussi, enfin, il y a une petite page, La Causerie Radio Canu, et vous retrouvez simplement les podcasts à chaque fois de toutes les semaines. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, et si, je ne sais pas, si par envie, tu as envie de coller des stickers de Radio Canu sur ton frigo ou sur un poteau...
Enfin, de La Causerie, en l'occurrence.
J'ai dit quoi ?
De Radio Canu.
Ah oui, non, de La Causerie. Radio Canu, je crois qu'il n'y a plus de stickers. Mais en tout cas, La Causerie a encore des stickers, donc si tu as envie de diffuser la bonne parole autour de toi, amen, et ben tu écris à lacauseriecanu@gmail.com et on tâchera de t'envoyer des petits stickers que tu puisses égayer ton frigo, ta chambre et...
La rue. Ah non, c'est pas bien la rue.
Non, c'est pas bien. C'est interdit.
C'est interdit.
Donc nous ne le dirons pas, évidemment. Donc ce soir, c'est Fab qui va tenir le crachoir ce soir et on va commencer, en tout cas tu vas commencer par nous parler d'un truc dont on n'entend plus tellement, la paix.
Ouais, c'est j'avais envie de ce soir de vous parler de l'idée de garder la paix comme fin. Voilà. Alors c'est un peu un texte qui va être un peu long, pardon, mais voilà. Donc tenir malgré tout. Alors c'est compliqué hein, en ce moment de rester optimiste dans la période que nous traversons. Les guerres repartent comme rarement, les actes de violence extrême, de pure barbarie, comme on dit, existent de nouveau de façon directement visible parce que l'information circule très vite, trop, parfois sans doute. Compliqué aussi de ne pas sombrer dans un campisme absurde et complètement mortifère qui donnerait du crédit à des actes innommables au nom de la pureté du camp choisi. Compliqué aussi parce que les événements qui se déroulent dans le monde polarisent les débats, nous obligent parfois à perdre des amis, des proches, enfin à ne plus leur parler, parce qu'on découvre qu'on a autour de nous des personnes qui n'ont plus d'humanité. C'est bien pour cela que ce soir, je ne vais pas vous dire que tout est simple, et c'est d'ailleurs très rare dans la causerie qu'on joue à la simplification à outrance. Non, ce soir, j'ai juste envie de vous parler d'humanité et de paix. Deux mots qui semblent avoir disparu du vocabulaire. Pire, deux mots parfois moqués, à droite comme à gauche, comme étant au mieux désuets, au pire inutiles. Et on va commencer par parler de ne pas perdre notre humanité. Il y a une chose que les actes odieux font, c'est de venir briser un peu plus notre humanité. Quand des civils meurent juste pour ce qu'ils sont, quand des actes d'une cruauté sans nom sont commis au nom d'une soi-disant légitimité à le faire, parce que nous sommes le camp des justes, du bien, de ce que vous voulez, et autres, cela nous heurte parce que cela nous touche, nous affecte, nous remue, nous dégoûte, et que sais-je encore. C'est d'ailleurs le but de ceux qui pratiquent et commettent ces actes. Nous déshumaniser, nous entraîner dans la même fange où ils se trouvent, nous pousser à devenir eux. Et ne nous mentons pas, parfois cela marche, temporairement ou plus longtemps, mais cela finit par affecter ce que l'on appelle les opinions publiques, et du coup leur capacité à refuser la haine et la violence au profit d'une vision plus délétère des choses, poussant vers un « ils l'ont bien cherché » et autres massifications idiotes par des grands ensembles. Réduisant toute personne ayant un point commun avec les auteurs des actes odieux à être leur soi-disant soutien ou je ne sais quoi. C'est une sorte de réactivation réflexe de l'œil pour œil, dent pour dent, qui n'est qu'un appel à la guerre et à la haine permanente. C'est aussi faire appel au plus bas instinct, ce qui ne passe pas par la raison. Et en fait, c'est ce dont rêvent tous les réactionnaires identitaires, nationalistes, religieux de cette planète, que l'on abandonne la raison au profit des réflexes de violence. Car qu'est-ce qui construit au fond notre humanité ? C'est notre capacité de voir dans l'autre, malgré les altérités, un ou une semblable. C'est se reconnaître dans ses peines, ses joies. C'est ressentir de l'empathie et être capable de dépasser les cloisonnements qu'on nous a mis en tête pour construire ensemble. Tout cela, quand nous le perdons, nous faisons un pas vers le pire, vers l'abject, vers le plus mauvais de l'humanité. Et nous y trompons pas. C'est bien un choix. La douleur peut aveugler, mais elle ne peut pas tout justifier. C'est bien un choix d'extraire l'autre, celui ou celle en face de l'humanité. D'en faire un non-humain pour mieux le détruire ou souhaiter qu'il ou elle le soit. C'est là que nous avons une responsabilité énorme, celle de faire un choix, finalement. Et j'avais envie aussi de parler de la paix comme boussole. Ce qui est troublant, c'est aussi d'avoir si peu de gens qui osent parler de paix, de dire que c'est ce que nous devons viser tout le temps, en permanence. C'est ce qui doit guider nos choix et nos actions, en fait. Aller vers la paix, et pas seulement le dire, mais œuvrer pour qu'elle arrive. C'est en fait très subversif, de viser la paix. Cela demande de remettre tant en question. La bêtise des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme disait Brassens, les religions qui ne sont que des carcans millénaires qui ne servent qu'à diviser, le capitalisme et toutes les formes d'exploitation, qu'elles soient monétaires ou de fait, comme dans les familles par exemple. Du coup, on cerne mieux pourquoi peu de gens, et en particulier les politiques de métier, osent parler de la paix. C'est les obliger à se positionner sur des questions qu'ils cherchent à éviter en permanence. C'est aussi s'imposer une discipline personnelle qui aille vers le consensus pour éviter la violence. Et même si, comme le disait Malatesta, la violence est parfois incontournable, ce vieil anarchiste rappelle qu'elle ne doit jamais être un but et jamais glorifiée. Être pour la paix ne signifie pas tout accepter, mais bien viser toujours la réponse la plus adéquate, celle qui laisse la paix ensuite possible. Oui, c'est contraignant, mais c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, notre capacité à penser le monde pour le changer. Dépasser notre simple état de sidération, entrer dans une réflexion la plus collective possible, le tout pour tenter d'arriver enfin à un équilibre qui entraîne la paix, c'est un vaste chantier, de vastes débats, d'énormes changements dans les rapports humains, dans le partage et dans l'accès au nécessaire. Viser la paix est finalement bien plus révolutionnaire que d'en appeler au canon ou au fusil pour changer le monde. Bien plus profondément modificateur de nos sociétés que les éternelles prises de pouvoir des uns ou des autres. De la division, il faut faire table rase pour unir enfin l'humanité dans un tout paisible. C'est une utopie, oui. Mais si nous l'abandonnons, que valons-nous en tant qu'humains au fond ? Et nous l'avons déjà cité dans la causerie, mais je pense que deux de ces citations de Malatesta sont de bonnes boussoles. Alors je vais commencer par la première. Tous ces mots dérivent de la recherche du bien-être poursuivie par chacun pour soi et contre tous. Nous voulons leur donner une solution en remplaçant la haine par l'amour, la concurrence par la solidarité, la recherche exclusive du bien-être par la coopération, l'oppression par la liberté, le mensonge religieux et pseudo-scientifique par la vérité. Bah, je trouve que c'est un beau programme. Je trouvais que... Pardon de le dire comme ça. Non, mais voilà, je trouve que c'est ça réaffirmait une base comme ça. Il y en a une autre que Malatesta avait dit. Donc, Malatesta, c'est un anarchiste italien du siècle dernier. Et il avait dit, si pour vaincre, on devait élever des potences sur les places publiques, je préférerais être battu. C'est issu d'un texte qui s'appelle La terreur révolutionnaire et qui s'interroge et interroge de ce que nous sommes quand, après une révolution, nous usons des armes de ceux qui voulaient éviter que la révolution ait lieu. Comme la terreur, par exemple, après la Révolution française. C'est une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche finalement une simple prise de pouvoir ou est-ce qu'on cherche à arriver à la paix ? Est-ce qu'on cherche finalement à dépasser ce que l'on est, ce que l'on vit, ou est-ce qu'on cherche à le reproduire sous des nouveaux oripeaux et des nouveaux oriflammes ? Voilà, c'est un vrai texte pour moi qui est fondateur de ce que c'est que la recherche de la paix et de l'humanité dans son sens premier. Voilà, alors je sais que ce billet de ce soir n'apporte peut-être pas grand-chose, j'en ai tout à fait conscience, mais j'avais l'envie, le besoin de dire que ce qui me tient, et de me dire ici ce qui me tient à cœur. Et que pour moi, la paix n'est jamais une utopie inutile. Elle est l'utopie ultime. C'est-à-dire, elle est ce que nous devons viser pour essayer de sortir l'humanité de cette espèce d'adolescence un peu longue qu'elle vit, où elle préfère régler ses comptes à coup de concours de bites plutôt que de les régler en discutant. Ça, je l'ai ajouté, je ne l'avais pas mis. Mais ça m'est venu d'un coup.
Ça y ressemble des fois, c'est vrai. Très souvent même.
Ouais, pardon, mais...
Non, mais je me disais, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément, est-ce que tu peux peut-être donner une courte définition du campisme ?
Ah oui, alors le campisme, c'est le fait de choisir un camp, oui. Ça, d'où le nom, et d'estimer que tout ce que fait ce camp est légitime. Ça date, en fait, souvent on le place à l'époque du maoïsme, en fait, et donc les années 70, hein, 1900, les années 50, 60, 70, 1900. Oui, parce qu'il faut que je commence à préciser.
Oui, il faut préciser.
Parce qu'un jour, peut-être, je dirais ça, on me dira, mais non. Voilà. Et en fait, c'est l'idée, c'est vraiment venu à une époque très précise de l'histoire. C'était une partie de l'extrême gauche qui, dès que les maoïstes, par exemple, faisaient quelque chose, tout était légitime. En fait. C'est-à-dire, on détruisait les hôpitaux. Ah bah oui, mais c'est normal parce que c'était des hôpitaux qui avaient été faits par le système bourgeois, machin et tout. On mettait les professeurs, les universités, les chercheurs dans des champs. Ah mais c'était normal parce que comme ça ils sauront ce que vivent les ouvriers. Alors qu'on a quand même besoin de médecins, de chercheurs, voilà. Et que voilà. Donc c'est ça le campisme. Ça date de cette époque-là. Et en fait on le voit réapparaître régulièrement. Oui. C'est aussi par exemple le positionnement qui refuse d'appeler acte terroriste un acte terroriste parce que on se dit ah mais non on est du côté par exemple des Palestiniens dans ce cas-là ou alors on a aussi vécu ça avec l'Amérique du Sud hein, où il y avait des actes qui étaient commis par Chavez et qu'en fait la gauche, une partie de la gauche française disait oh, oui. Ben, enfin là, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il envoie l'armée, alors que c'était des actes de pure barbarie et qu'il a fait flinguer son peuple hein, à un moment donné. Et on disait non, mais parce que mais c'est vraiment cette notion-là, en fait, le campisme, en fait. Voilà.
Ok. Oui, merci. Ok, pardon. Je continue de rebondir, mais on a un petit souci technique aussi en même temps.
Ah oui.
Donc, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse.
Ah, je vous dis, le souci technique, c'est qu'il y a eu un copier-coller sur la clé qui n'a pas marché, et du coup, tu n'as pas les titres sur la clé.
Ah merde, t'en as aucun. Voilà. Ok. Ouais. Alors, attends.
Non, mais c'est pas grave. On va
c'est
y
pas
arriver.
Grave. Non, c'est parce que je voulais continuer de.
Bah vas-y, pose-moi une question et pendant que.
Ouais. Non, en fait, c'est aussi sur cette notion justement de côté comment dire. Genre la paix, en fait, c'est has-been, c'est une utopie. Et en fait, il y a quelque chose moi que je trouve assez terrible. Ça veut dire que.
Bah, si on ne croit pas à la paix, c'est-à-dire qu'on croit à la guerre permanente.
Ouais.
Bah, je vais le dire clairement, c'est ça. Hein.
Et puis, enfin, il y a. Enfin, je trouve que c'est la plus belle des utopies, quoi. Imaginer possible que 7 milliards, 8 milliards, ou je ne sais pas combien on sera dans le futur.
Bon, on est déjà presque 9 là.
D'être humain puisse vivre sans se faire la guerre.
Enfin,
je
veux dire,
c'est quand même, je trouve, une des plus belles utopies, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est pour ça que je vote à fond pour être un hippie. J'assume complètement ce côté hippie, mais parce que, enfin, mais
en fait, ça
je pense en plus que c'est tellement possible, quoi. Je pense que les oppositions, elles sont aussi animées. Alors, évidemment, je dis pas, il s'agit pas de vivre dans la paix aujourd'hui, tout de suite, maintenant, parce que tant que t'es pas dans un monde, on va dire, de justice, d'équité et de possibilités de moyens égaux pour beaucoup de monde, etc., ben en fait, oui, effectivement, c'est juste pas possible. Mais en fait, c'est quand même en tant qu'anarchiste, si on vise une société avec, je ne sais pas, par exemple, du fédéralisme libertaire, une société sans classe, sans... Ça veut bien dire qu'on vise un monde où on se mettra pas sur la gueule tout le temps.
Bah,
quoi.
Il faut espérer.
Enfin, j'ose espérer, ouais. Mais c'est des fois ce que je m'intrigue, je m'interroge aussi, parce que quand je vois certains anards, on se demande quelle est la finalité, si ce n'est des fois aussi du bougisme et de l'opposition pour de l'opposition, et qu'en fait, derrière, bah, ça pisse pas très loin. Et c'est ce qui manque un peu, des fois, je pense aussi, de ramener des nouvelles possibilités, Et ça, c'est un truc vraiment qui... Enfin, ouais, je pense que c'est un truc qui disparaît un peu trop souvent de nos esprits, quoi.
Ouais, et puis ça conditionne... Enfin, moi, je pense que ça conditionne aussi la façon dont on mène nos combats. C'est-à-dire que, vraiment, je me suis rendu compte de ça, mais alors, peut-être en vieillissant, peut-être je suis un peu... Peut-être, voilà, j'ai 46 ans, peut-être j'ai pris un peu de recul sur certaines choses, j'en sais rien. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de comment le combat est mené. Et je vais donner un exemple, parce que je le trouve très, très parlant. Et finalement, on l'a déjà vécu dans l'histoire... dans l'histoire des luttes. Hein. C'est quand on faisait péter de façon des bombes en disant « Bah oui, mais c'est légitime parce que... on se bat contre la bourgeoisie, contre un truc comme ça et tout. » Et très vite, il y a eu un débat, d'ailleurs, notamment dans le mouvement anarchiste, sur ce qu'on appelait la propagande par le fait, où des anarchistes disaient, bah, c'est pas en flinguant un bistrotier ou un serveur dans un café que tu fais avancer la cause, parce qu'en fait, tu fais juste transformer sa famille en finalement un ennemi de ta cause, parce que du coup, c'était l'idée de dire, bah, peut-être faut cibler, quoi. C'est, voilà. Et en fait, ça, c'était pas une remise en question du fait que la violence pouvait avoir lieu. C'était plutôt de dire, bah, la violence comme glorification du mouvement, ça fonctionne pas. Et donc, en fait, c'est ces vraies réflexions là, en fait, qu'on doit avoir. Et je pense que quand on essaye de mettre la paix en ligne de mire, de se dire, il faudra un jour qu'on arrive à vivre avec celui qui est en face, parce que ça va pas être mon ennemi éternel, et que ses enfants seront pas mes ennemis, et que voilà, et ben en fait on transforme, y compris nos discours, y compris notre façon d'aborder les choses. Et il y a quelque chose, par exemple, que j'avais en tête, alors qui est pas du tout quelque chose de gauche ou d'extrême gauche, mais c'est la fondation de l'Europe, par exemple, après la guerre, j'entends bien, voilà. Ben en fait, souvent les gens, ils moquent ce truc là sauf qu'on oublie dans quel contexte c'est fait. C'est-à-dire que on est quelques années après la sortie de la guerre, l'Allemagne nazie a été quand même, a écrasé de l'Europe de façon extrêmement violente. Et il y a des gens humanistes dans tout ça qui se disent, bon, il faut quand même peut-être mieux à un moment donné qu'on se parle et qu'on soit ensemble, plutôt qu'on recommence à se refaire une guerre dans 20 ans, et que tous les 20 ans on se dise, bah tiens, c'est la dernière, quoi. Et en fait, bah, même si derrière il y a aussi des idées, évidemment, capitalisme, machin et compagnie, je suis pas en train de glorifier l'Europe, mais il y a quand même aussi, il faut lire dans des discours de l'époque, des gens qui mettent la paix en premier. C'est-à-dire qu'ils disent, la première chose qu'il faut qu'on vise, c'est une solution pour être en paix. Et en fait, ça va conditionner, y compris les gens qui vont s'investir dans cette fondation. Et on va voir, y compris, moi je pense à une Simone Veil, par exemple, qui était quand même rescapée des camps, et qui va monter le Parlement européen aux côtés d'un Allemand qui était en ancien des Hitlerjugend, parce qu'il était contraint de les faire, et que c'était pas... voilà. Mais ils vont tous les deux faire ça, et avec un discours humaniste extrêmement fort, en disant, bah, il faut qu'on fasse la paix. Alors oui, après il y a plein de défauts, j'ai pas, voilà. Sauf que bah, ça conditionnait aussi la façon dont on se parle. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Et dans les conflits actuels, par exemple, quand vous avez un Vladimir Poutine d'un côté qui s'oppose chose à l'Ukraine de l'autre, on voit bien que les discours des deux camps, là il y a un camp du coup, on n'est pas obligé d'en choisir un parce que personnellement je choisis le camp de la paix, mais on voit bien que les discours sont pas les mêmes et dire c'est la même chose, c'est pas vrai. Il y a pas les mêmes buts, il y a pas les mêmes discours de haine, il y a pas l'exagération qu'on peut trouver chez un Poutine qui voit des néo-nazis partout, voilà. Donc ça c'est un exemple et on le voit dans d'autres aspects. On parlait de la Birmanie dans la causerie, dans la partie libre de la Birmanie aujourd'hui, c'est-à-dire le nord de la Birmanie, et ben en fait le discours il est de dire, et je l'ai lu là récemment, les militaires en face de nous, leurs généraux sont nos ennemis, les militaires sont contraints. Et en fait il y a cette logique de dire on envoie des gamins nous tirer dessus, mais c'est pas eux. Enfin, vous voyez, alors ça veut pas dire qu'il y aura pas de violence, ça veut juste dire que la façon de poser les choses, eh ben c'est pas, hein, il faut éradiquer l'autre.
Oui, tu déshumanises pas.
Et quand on tombe dans la déshumanisation, c'est là qu'on se plante. Mmh. C'est à ce moment-là qu'en fait, eh ben on devient ce qu'on est censé combattre. Et moi, ça me tient vraiment à cœur que ben on mette ces débats sur la table et qu'on arrête de trouver logique de dire des slogans creux comme si ça avait pas d'incidence, comme si ce qu'on hurlait n'avait pas de conséquences. Et voilà, moi je trouve qu'à un moment donné, bah ouais, il y a des moments où quand on déshumanise l'autre, en fait, quand on déshumanise celui qui est en face totalement, et ben on fait un pas vers quelque chose dont on revient pas forcément indemne.
Mais on fait un pas vers ce qu'on est censé combattre, quoi.
C'est ça.
En fait, c'est vraiment, pour moi, il y a de ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut combattre un système capitaliste, mais pas que. Enfin, les oppressions diverses, racisme, sexisme, homophobie, etc. C'est le fruit d'une déshumanisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus un individu face à un autre. On est un sale PD, on est un sale noir, on est tout ce que vous voudrez, en fait. Donc, ce qui veut dire, c'est notre ennemi nous déshumanise, en fait. Et on peut pas avoir comme objectif
de le
déshumaniser tous ceux qui sont pas vraiment d'accord avec nous. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es pas d'accord avec nous que t'es forcément un gros fasciste qui doit mourir, quoi. En fait, on manque de nuances, mais alors c'est moi qui dis ça, je suis pas forcément toujours le plus nuancé. Mais enfin, riche réflexion.
C'est pour ça que je tenais ce soir à parler de ça, parce que moi, je trouve qu'en ce moment, et notamment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, alors en plus quand le Moyen-Orient, enfin ce qu'on appelle le Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël-Palestine, ça repart systématiquement, on revoit réapparaître les mêmes excès de tous les côtés. Et en fait, le problème, il est là, c'est que je pense que les populations sur place, elles ont pas besoin d'excès. Elles auraient plutôt besoin de gens qui disent, va falloir passer à autre chose, entre guillemets, dans le sens, va falloir apprendre à vivre ensemble. Ça peut paraître très étrange, hein, ce que je dis, alors, et ça veut pas dire, et je suis pas en train de dire que la colonisation c'est acceptable, que tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, moi, je vois, j'essaye de lire les deux côtés. Je vois qu'il y a aussi bien, pour ce conflit-là, des Palestiniens que des Israéliens qui tiennent des discours extrêmement clairs sur la notion de paix et sur la notion de vivre ensemble et sur le fait qu'il faut se débarrasser des extrémistes parce que les extrémistes leur pourrissent la vie. Et ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, c'est vrai un peu partout. Et je trouve que, voilà, des fois, il faut se rappeler que, la paix, c'est pas ringard, quoi. Voilà, je vais le dire comme ça, en fait.
Non, c'est une belle utopie.
Ah ouais, je
faites l'amour, pas la guerre, c'était ça le truc, non?
Ouais, j'aime bien l'idée aussi.
Bah, ça serait vachement cool.
D'ailleurs, si tu veux faire l'amour, c'est la causerie canure. Non, pardon. Oui, non, excusez-moi, c'était pour la blague.
Peut-être qu'il fait ses plans à la radio, quoi. Alors, je crois que pour l'instant, en tout cas, on a un peu résolu le problème.
Technique. Moi, j'ai totalement merdé en faisant la clé, je m'en excuse, Clara. C'est parce que j'ai foutu, mais bon, le copier-coller a pas marché.
Et donc, ça devrait être bon, on va pouvoir partir sur la ZIC. Normalement, ça devrait marcher. Et puis on vous dit à tout de suite. Everybody's talking about baggism, saggism, dragism, madism, ragism, tagism, thisism, thatism, ism, ism, ism. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Come on, everybody's talking about ministers, sinisters, banisters and canisters, bishops and bishops, rabbis and papas, bye-bye, bye-bye. All we are saying is give peace a chance. All we are saying
Let me tell you now, wherever I'm talking about revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integration, medication, United Nations, congratulations. All we are saying is give me such a
retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et après un petit billet sur la paix, je me suis dit, bah, pourquoi pas passer Give Peace a Chance.
Bah, oui.
Voilà. Et comme j'avais déjà passé la version de Yoko Ono and the Plastic Band and John Lennon, je me suis dit, bah, cherchons une nouvelle version. Et c'est Kimmy Kent qui s'y colle pour le coup. Et c'est une chanteuse de Las Vegas qui fait ça avec ses potes dans un studio et qui fait des reprises, et pas que, parce qu'elle fait aussi des titres à elle.
En tout cas, ça fait toujours du bien.
Ouais, et puis j'ai trouvé leur version, elle était un peu différente. Et un peu, voilà, j'aimais bien.
Ouais, et puis c'est un hymne hippie.
Ouais.
Bordel, je vais finir hippie, hein, je vous le dis, moi.
C'est surtout un hymne à la paix, ça fait du bien. Voilà.
Comme je disais en début d'émission, c'est Fab qui tient le crachoir ce soir.
Ouais.
Et puis, pour finir, on...
Ah, j'ai un peu plus léger.
Ouais, et carrément hyper cool aussi. Enfin, hyper cool. C'est une série dont tu vas nous parler.
Je vais vous parler ce soir d'une série qui s'appelle Sex Education. Et voilà. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est une série qui amène un vrai plus depuis quelques temps. J'avais d'ailleurs envie de vous parler de Sex Education, une série produite et diffusée par la société au N rouge. Voilà. Pour pas dire Netflix.
Voilà. On est très discret sur les réseaux sociaux commerciaux, sur les plateformes.
Non, voilà. Mais après, elle se trouve par ailleurs sur Internet. Donc, elle a débarqué en janvier 2019 sur les écrans. Et depuis, elle a connu 4 saisons. Et si je vous en parle, c'est que pour moi, elle est un objet de pop culture des plus intéressants à bien des niveaux. Voilà, et pas seulement parce que c'est une bonne série. Alors, on va commencer par un résumé de l'intrigue principale. Bon, en gros, je vais vous résumer les 2 premiers épisodes. Je suis désolé, ça va un peu vous gâcher les 2 premiers épisodes. Voilà. Donc, Otis Milburn, dont la mère est thérapeute sexologue, refuse les questions ou conseils de celle-ci à propos de sa propre sexualité. Il est vierge et il ne parvient pas à se masturber. Juste pour info, Otis a 16 ans.
Ouais.
Voilà, au début de la... Voilà. Et ce qui lui pose de sacrés soucis à ce pauvre Otis. Et sans vraiment le vouloir, Otis se retrouve à aider la terreur du lycée, Adam, qui a des problèmes d'éjaculation en lui prodiguant des conseils qu'il tient de sa mère, la thérapeute. Ça va, vous suivez jusque-là ?
Ça va.
Voilà, donc, témoin de cette thérapie improvisée, Maeve Whaley, vue comme une rebelle qui vit sans parents, propose à Otis de créer un cabinet de sexologie au sein du lycée. Bon, faut dire qu'elle a un peu des problèmes de thunes. Voilà. Ça, c'est sur ces faits que démarre l'une des séries les plus addictives, intelligentes et frontales de ces dernières années. Car, vous vous en doutez, cela va aller sur bien plus que simplement la sexualité des adolescents. Ce sera un peu dommage que ça s'arrête à ça. Donc, qui l'a créé ? Alors, la créatrice de la série, elle s'appelle Laurie Nunn. Elle est britannique. Elle est âgée de 32 ans lorsqu'elle dépose sa proposition de série chez Netflix. Parce que je vais arrêter de dire le N rouge. Hein, voilà. Mais sa série, elle est écrite depuis plusieurs années et elle a essuyé pas mal de refus du fait du caractère jugé soit trop osé, soit trop engagé, soit les deux, d'ailleurs, de sa série. Et donc, je vais laisser Jean-Yves finir de donner le téléphone, parce que ça me perturbe dans ma lecture.
Désolé.
Voilà. Mais en fait, elle va s'accrocher, hein, car elle est certaine que notre époque manque d'une série sur ce que les normes entraînent, sur les loupés autour de la sexualité, sur le rôle des parents, sur l'idée d'être anormal quand on n'est justement pas dans les normes. Mais alors, juste comme ça, dans une interview, elle disait qu'elle, par exemple, quand elle était jeune, elle avait beaucoup aimé Heart Like a Ravif, qui était une série...
C'est-à-dire que ça changeait quand même vachement par rapport à Beverly Hills,
clairement.
Choses comme ça, c'est-à-dire que tu avais une jeunesse dorée, plutôt bourgeoise, etc.
Là, on parlait
etc.
de toute la jeunesse.
Alors que là, oui...
Mais elle le fait aussi avec une dose d'humour, qu'elle qualifie de l'humour de distance que l'on a toutes et tous pour éviter de sombrer. Et c'est vrai que la série, souvent, a des ressorts humoristiques pour qu'on évite de trop sombrer dans certains sujets qui peuvent être parfois très sombres, mais voilà. Ces scénarios sont crus, directs, sans détour. Les sujets abordés sont vastes et iront sur des terres rarement explorées dans une série dite adolescente grand public. Ça, c'est le classement français de la série. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, la série est classée comme série sociologique. Okay. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le même classement. Mais en France, dès qu'il y a des ados, on dit c'est adolescent grand public. Voilà, c'est comme l'Heroic Fantasy. Ça. Donc, dans sa série, elle va aborder quand même le viol, l'emprise, le déni de soi, l'homosexualité, la transidentité, le racisme, les religions, le poids des communautés, la violence éducative, la transmission des névroses, le handicap et bien d'autres thèmes, parce que je n'ai pas tout listé, parce qu'il y a quand même 4 saisons et que je ne pouvais pas tout vous lister. En gros, il y a pour un peu vous expliquer, un thème par épisode, on va dire ça comme ça. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est d'aborder, même si certains thèmes sont sur la longueur, mais vous avez en gros une interrogation par épisode. Et le tout, hein, je le redis, teinté d'un humour et parfois de situations ubuesques, parce que dans la vie, ça arrive, on se retrouve dans des situations un peu pas prévues, mais qui font du bien, parce que quand on y repense 20 ans après, on se dit « Oh putain, c'était drôle !» Voilà. On notera aussi, hein, d'ailleurs, un habillage musical des plus travaillés, hein, chaque épisode se terminant avec un titre en lien avec la thématique principale de celui-ci. C'est quand même un sacré exercice. Et piochant dans la musique des années 50 à nos jours, avec une nette préférence pour les années 70 et 80, il est vrai. Voilà. Mais c'est très sympa, parce que chaque épisode se termine avec un titre, et puis le titre parle de ce qui s'est passé. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on croise dans cette série ? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi.
Aussi.
Alors, on va croiser le fameux Otis Milburn, hein, qui est le personnage principal de cette série. Il est interprété par Asa Butterfield, et c'est un ado un peu perdu dans sa vie, mais terriblement efficace pour aider les autres à se sortir de la complexité de la leur.
C'est le cordonnier le mal chaussé.
Voilà. Quoi. Surtout quand il s'agit d'ailleurs de problèmes relationnels ou sexuels. Alors que lui est une bille totale, hein, voilà le truc là. Pourtant, Otis, d'ailleurs, il est intéressant comme personnage parce qu'il est tout sauf parfait. Il est souvent égoïste, parfois blessant, et il est malgré tout des côtés touchants.
Mais en plus, et je trouve que c'est hyper aussi intéressant justement de démontrer ça, c'est-à-dire que on peut tous connaître des gens qui sont vraiment de super bons conseils, qui vont pouvoir, nous aider à prendre un pas de recul, etc. Mais au final, si vous creusez un petit peu et que vous connaissez un peu sa vie, vous vous rendez compte que c'est pas parce qu'il arrive vachement bien à vous aider ou à nous aider que ça fonctionne, quoi. Je trouve que c'est hyper réaliste, en fait. Je trouve que c'est hyper réaliste.
La série est très réaliste, hein, vraiment, quoi. Mais après tout, justement, les gens imparfaits ne sont-ils pas ceux que l'on aime aimer? Voilà. Cette phrase, je l'ai piquée à aimer, justement. J'en reparlerai plus loin. L'autre personnage phare, c'est Maeve Whaley. C'est Emma McKay, hein, qui lui donne vie. Alors Emma McKay, vous commencez à la connaître parce qu'elle était dans le film Barbie, parce que c'est une actrice géniale et que pour moi, il faut lui donner un Oscar rapidement. Et surtout des premiers rôles. Et qui elle va lui donner vie, et autant le dire, avec brio. Sans doute, c'est le personnage le plus complexe de la série, et l'interprétation sans faille de l'actrice lui donne d'autant plus corps, parce qu'elle a vraiment un personnage compliqué. C'est un personnage brisé par la vie, obligé de se démerder depuis des années. Et ce monstre de froideur qu'elle semble être, n'est en fait qu'amour pour les autres, sans vraiment savoir comment aimer justement. Et l'évolution de son personnage sur les quatre saisons est juste impressionnant et vraiment, vraiment très, très bien écrit. Et à mes yeux, c'est un des personnages de série les mieux écrits de ces 30 dernières années. Mais voilà, je le dis très sincèrement. On retrouve ensuite le meilleur ami d'Otis, hein, depuis son enfance, Eric Effiong. Et c'est une Kutigda... C'est une Kutigda... je crois que ça se dit comme ça, je ne pourrais pas appeler son nom, hein, qui est le futur Docteur Wu, hein, pour ceux qui suivent Docteur Wu, qui interprète ce personnage, hein, donc c'est un homosexuel flamboyant, coincé dans une communauté qui ne l'accepte pas vraiment. Et alors quand je dis flamboyant, il est flamboyant.
Hein, il est flamboyant. Voilà.
Il vient d'une famille nigériane religieuse pratiquante, le personnage, hein, je précise, autant dire qu'il détonne, hein, dans sa famille, très clairement. Et son parcours dans ces quatre saisons sera l'occasion d'interroger tout cela, les choix, le rejet, la bêtise, le refus d'être soi. Et en prime, l'acteur a beaucoup discuté avec la créatrice, car cette histoire résonne avec la sienne. Parce qu'en fait... Nkutigdawa, et il est d'origine rwandaise, et c'est le premier qui a fait son coming out dans sa famille. Mmh. Et il dira même dans une interview en février 2023 que quand il est allé à la Pride de Londres, il a croisé pour la première fois de sa vie une Rwandaise qui lui dit « Mais je ne sais pas ce que je suis là ici », et il lui répond « Bah sois fier, c'est juste qu'on est content d'être là », et il dit « Bah je croyais être le seul Rwandais queer du monde ». Voilà, donc c'est plutôt mignon. Ouais. L'autre personnage qu'on découvre et qui va nous toucher de plus en plus, c'est celui de Amy Gibbs, qui est la meilleure amie de Maeve. Pourtant, Amy Gibbs, dans la série, elle est issue d'un milieu bourgeois, alors que Maeve, elle, est plutôt issue d'un milieu très pauvre. C'est l'actrice Amy Lou Wood. Alors, juste je précise, c'était à la demande de la créatrice qu'elle a gardé le prénom.
D'accord.
Voilà, c'était un choix, parce qu'elle trouvait que ça collait bien. Voilà. Qui porte ce personnage de fille un peu décalée. Voilà, mais elle le fait avec brio. Et d'ailleurs, son parcours parlera à bien des gens. Et il est sans doute l'un aussi des plus complexes de la série. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Mmh. On se retrouve ensuite Adam Groff. Alors, Adam Groff, lui, c'est le gros dur du lycée. On le soupçonne d'être homophobe, raciste peut-être même. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et autant le dire, le jeu de Connor Swindells, hein, qui l'incarne, est juste bluffant. Il donne à Adam une profondeur folle, et son personnage, qui va traverser des remises en question profondes et des désillusions violentes, sera pourtant là pour nous rappeler qu'on est avant tout ce que l'on accepte d'être. Mmh. Voilà. Et il nous fallait aussi quand même, dans une série ado, hein, il nous fallait l'archétype du beau gosse sportif. Et voilà. Et c'est donc le rôle de Jackson Marchetti, qui est là, et c'est, voilà, donc, nageur, beau, hein, sûr de lui, sexuellement hyperactif, sans faille selon tout le monde, et pourtant il est bien loin de ce qu'on lui colle à ce pauvre beau gosse du lycée. Et c'est Kedar Williams Stirling, hein, qui interprète et qui dira d'ailleurs dans une interview « Quand j'ai lu les premières pages du scénario, donc en fait son rôle dans les deux, trois premiers épisodes, j'ai failli refuser le rôle et quand j'ai lu la suite, j'ai tout fait pour l'avoir. » Et en fait, on peut que comprendre pourquoi, parce que quand on voit l'évolution de son personnage et surtout quand on voit à quel point ce personnage sert à interroger les normes, c'est vraiment juste génial. Et enfin, en personnage principal, on a la mère d'Otis,
ouais,
qui arrive tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est Jane Milburn, et c'est une sexologue renommée, femme libre, mère comme elle le peut, mais aimante. Vraiment une mère aimante, mais
pas
maladroite,
ouais,
voire très maladroite parfois, mais aimante. Et c'est Gillian Anderson, hein, qui offre son talent à ce personnage, et autant le dire, c'est du petit lait, parce que vraiment, c'est... elle est géniale toutes les saisons, et c'est vraiment top, quoi. Et il est rare d'ailleurs de voir une série qui interroge aussi frontalement ce que c'est que d'être une femme cinquantenaire dans un monde qui semble vous réduire à n'être plus grand-chose. Et en prime, elle est très drôle dans cette série, même parfois malgré elle, mais vraiment... Elle est géniale, voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la galerie de personnages que vous allez retrouver. Et je vous assure, il y a forcément un personnage à qui vous allez vous attacher, voire des personnages.
Oui, oui.
Et cette bande de potes, et pas toujours, parce qu'on n'est pas toujours potes, va vous emmener avec eux dans dans une espèce d'introspection sur la société actuelle, et c'est super cool.
Ah, mais je trouve que ouais, ça, en fait, ça vient vachement interroger plein de trucs, mais aussi... évidemment. Et puis c'est aussi d'où on part, en fait. En fait, il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est, en fait, comme tu l'as dit, il y a vraiment des milieux différents, des éducations différentes, des moyens économiques différents. Je sais pas comment dire, ça vient nourrir le personnage, nourrir l'histoire de, quand on part pas très armé. Et ben, c'est compliqué, quoi.
C'est ça.
Et je, non, mais je trouve
et
que
des fois, quand on part très armé, c'est aussi compliqué.
C'est pas plus simple. Non, mais
parce qu'il sait comment on s'applique à soi-même ce qu'on sait.
Et qu'après, c'est pareil. C'est pas parce que tu viens d'un milieu favorisé que forcément tout va toujours rouler comme sur des roulettes et que tu rencontreras jamais de la merde dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît très bien et qui sont. Qui n'appartiennent pas à une classe sociale, en fait. Les violences sexuelles, physiques, etc. On sait que ça n'appartient pas à une classe, à une classe sociale. Donc c'est vraiment tout ça aussi que je trouve, ça vient montrer, complexifier.
Il y a aussi la notion de on ne tombe pas forcément amoureux des gens qu'on croit.
Non plus.
On tomberait amoureux. Ouais. Enfin, voilà, de tout un tas de trucs comme ça. Et je trouve que c'est tout très bien abordé.
Ouais.
Et moi, je le dis, hein, pourquoi il faut regarder cette série et qui peut la voir? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose dans ces cas-là. Donc, en fait, il est quand même rare à mes yeux qu'un objet de pop culture puisse avoir, ouvrir autant de débats sur autant de sujets que Sex Education le fait. Alors, je le redis, ça ne parle pas que de sexualité. Parce que le titre est un petit peu une sorte de pied de nez à la mère d'Otis. Parce que quand on réfléchit, c'est un petit peu ça qui tourne autour de tout ça. Et puis surtout le moment où, bah, quand on est ado, c'est le moment où la sexualité apparaît, en fait.
Ouais, et qu'en même temps, après, j'ai aussi envie de dire que ça vient aussi rebondir sur.
Beaucoup à l'école.
Non, et qu'en fait, quand on réduit souvent, justement, quand on parle d'éducation sexuelle, etc., les plus réacs, sont capables de vous dire on va apprendre aux enfants à se masturber, c'est absolument pas l'idée.
Alors, c'est pas du tout ça,
et que justement, je trouve que la série, elle vient complexifier là aussi. En fait, l'éducation. Elle n'est pas que sexuelle, elle est aussi sociale, sentimentale, émotionnelle,
relationnelle.
Relationnelle, c'est tout ça en fait que ça vient interroger la sex education, l'éducation sexuelle. C'est pas juste du cul de la pratique, c'est pas, on s'en fout, c'est presque secondaire en fait.
Comme le dirait très bien la mère d'Otis, Jane Milburn, la pratique n'est pas le plus compliqué.
Non, mais
le plus difficile est de bien pratiquer. J'adorais cette phrase.
C'est tout ça que ça vient vraiment, je trouve, interroger en fait.
Et donc, pour moi, sans doute, une des meilleures raisons de regarder cette série, c'est qu'elle ouvre énormément de débats. En prime, elle a une vraie fin. C'est-à-dire que c'est une série qui est bien écrite et qui, de saison et qui clôt ses arcs narratifs, et ça fait du bien parce que ça nous laisse pas sur notre fin avec un objet un peu incomplet. C'est un objet totalement complet, il n'y a pas de frustration, si ce n'est un petit pincement au cœur à quitter tout ce beau monde et à se dire espérons qu'un jour elle écrive 4 nouvelles saisons avec des nouveaux personnages, parce que pourquoi pas après tout. Et voilà, mais en tout cas cette série là elle est vraiment bien faite. Et cerise sur le gâteau, la série elle est détestée par tous les milieux réactionnaires. Rien que pour ça faut la faire marcher. Et c'est pas pour rien, parce que tout en restant critique des excès de certaines positions, comme la bienveillance obligatoire, par exemple, c'est un des exemples qu'il y a dans la série, où elle vient critiquer aussi, l'autrice, en fait, vient critiquer, que parfois on est aussi excessif dans l'autre sens. Elle dit, prenez un peu des respirations, mais c'est pas du tout une critique anti-woke ou quoi que ce soit, ou bien au contraire, parce que la série serait classée par Éric Zemmour comme ultra-woke de la mort qui tue. Je rappelle que woke, ça veut rien dire. Je ris de ces appellations.
En fait, on peut espérer vivre dans une société où on sera toutes conscientes et tous conscients, en fait, des différentes oppressions que l'humain peut subir. Je trouve que ça pourrait être pas mal, en fait. Hein. Mais en fait, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je le savais. C'est ma phrase, je savais que j'allais me perdre. Tant pis, vas-y.
Donc en fait, elle déplaît aux réactionnaires, c'est sans doute logique, parce que c'est une des séries les plus complètes sur ce que peuvent traverser les ados et les jeunes adultes en ce moment. Et donc complète parce qu'elle va aborder beaucoup, beaucoup de thèmes. Et surtout, alors ce qui choque beaucoup les réactionnaires, c'est la critique de la famille. Moi, j'ai lu beaucoup de trucs où il dit, parce que oui, dans Sex Education, on parle de la famille, des rapports dans les familles, de tout ce que la famille implique.
Qu'un papa et une maman, c'est pas toujours super.
Ouais, voilà, par exemple, des choses comme ça. Et puis, les réactionnaires, ils viennent aussi parce que, mais il y a des trans dans la série. Oui, mais il y a des personnes trans dans la vie aussi.
Ils existent pour de vrai. Hein.
Oui, ces gens existent. C'est les licornes, non, les trans, oui. mais c'est juste. Et en plus, la créatrice, elle a fait très attention. Elle s'est entourée d'énormément de militants et de militantes. Elle a énormément lu, elle le dit elle-même, sur beaucoup de choses pour éviter de dire des conneries et surtout ne pas transformer ça en espèce de truc où tout va bien. Mm-hmm. Parce que, y compris pour les personnages qui traversent, alors trans ou pas hein, d'ailleurs, il y a des fois où la solution magique, elle n'existe pas forcément et que c'est compliqué et que voilà, et je trouve que la série justement elle est très réaliste là-dessus et que du coup elle fait du bien parce que quand vous avez traversé ces choses-là, par exemple vous êtes un jeune homosexuel dans un milieu qui vous rejette, et il n'y a pas de solution magique, on claque pas des doigts et d'un coup tout va mieux, et non, c'est plus compliqué que ça, même si la quatrième saison fait des parallèle très très drôle, je vous invite vraiment à regarder cette série. Donc voilà, ça fait une série que vous pouvez mettre sous les yeux de vos ados, je dirais moi à partir, allez, on va dire entre 13 et 15 ans, selon le degré où ils se trouvent par rapport à la sexualité et la façon dont vous avez l'habitude de parler.
Oui, c'est toujours hyper compliqué de dire j'ai pas donné un âge
voilà. Mais par contre, si regardez avec vos ados ou vos enfants des choses qui abordent le sexe de façon frontale, alors pas visuellement, on n'est pas dans un porno, hein, mais il y a quand même, oui, il y a quand même du sexe dans Sex Education, faites des visionnages séparés, hein, voilà, ça va bien se passer. Mais surtout, parlez-en après, parce que vous aurez sans doute des questions, autant que votre ado préféré en aura. Parce que oui, vous aurez des questions en tant qu'adulte. Parce que d'un coup, ça va vous faire tilter de dire « Mais je ne me suis jamais posé la question de ce qu'il vivait à l'école, par exemple. » Voilà. Bref, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Sex Education et la visionner dès que possible. Alors, elle se regarde assez vite, hein, parce qu'il y a 32 épisodes qui font entre 45 et 60 minutes max. Pour moi, elle reste longtemps gravée en mémoire et elle fait du bien, cette série. Et moi, je suis preneur de vos retours. Voilà. Vous me disiez oui. « j'ai aimé, j'ai pas aimé. Voilà. »
Et achetez-vous après, quelques mouchoirs en papier.
Ouais, voilà. Mais après, la série est pas parfaite, hein, parce que je sais qu'il y a des gens, j'ai lu des gens qui ont des critiques. Ouais, mais bon, des fois, ça va un peu vite. Oui, alors c'est une série, hein. On va rappeler quand même que le but, ils avaient pas 12 ans, hein, pour faire, voilà. Donc ils peuvent pas faire une évolution sur 12 ans. Mais moi, je trouve qu'elle est intéressante et elle interroge beaucoup de choses. Et vraiment, moi, il y a des personnages, je rêve, d'ailleurs, je vous le dis, de les voir adultes. C'est-à-dire, j'aimerais que la créatrice se dise, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus dans quelques années? Parce que finalement, c'est intéressant aussi de se dire, bah, on sait d'où ils sont partis, mais est-ce que finalement, quelques années après, ça va mieux ou pas? Voilà.
Ouais, et je rebondissais parce que effectivement, tu parles beaucoup. Enfin, tu disais.
Oui, je parle beaucoup de ça.
Non, non, tu parles beaucoup du fait que c'est pour les ados ou autre. Et fondamentalement.
Ah non, moi, la série, elle est pour tout le monde.
Elle est vraiment pour tout le monde.
C'est pour ça que je parlais du classement en France. Le classement est nul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une série qui est pour tout le monde.
Vous pouvez aussi la regarder avec vos ados. Mais,
mais
si vous n'avez pas d'ados, vous pouvez vraiment la regarder aussi. Parce que, enfin, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de résonance avec certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui et qui sont pas forcément portées que par des jeunes ados, hein. Je pense à la transphobie, etc. C'est pas que les jeunes ados, quoi. Enfin, je veux dire, J.K. Rowling, je crois pas qu'elle soit ado, par exemple.
Donc Éric vraiment. Éric Zemmour
non plus. on peut en citer plein, mais c'est pas l'idée. Mais c'est vraiment, ça amène à s'interroger. Ouais, et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant parce que je trouve que ça manque beaucoup, en fait. C'est aujourd'hui, on a beaucoup de choses où on annonce des choses, on donne une vérité, alors que là, en fait, ça amène de la complexité, ça amène plein de choses comme ça, et je trouve que vraiment il n'y a pas d'âge pour s'interroger sur la vie, la sexualité, le rapport aux autres, le rapport au genre, etc., etc. Et que vraiment, je suis aussi emballé que toi, et vraiment, regardez-la à fond, parce que...
Ouais, puis je trouve qu'il y a une galerie de très beaux personnages secondaires aussi, parce que là, je parle des principaux, mais en fait, je vais le dire comme ça, parce que c'est une des rares séries où je trouve qu'il n'y a pas de personnages inutiles. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a tous les personnages que vous allez croiser ont une histoire, ont quelque chose à vous apporter, vivent des choses, et en fait, mais même il y a des gens qui sont, je dis ça parce que la créatrice l'a dit, je trouve ça très drôle, il y a des gens qui sont normaux, mais elle dit ça en rigolant, elle dit en fait il y a des gens, ils leur arrive pas forcément grand chose dans la vie, mais juste le fait qu'ils existent en fait, permet en fait de comprendre pourquoi d'autres se sentent pas forcément bien, permettre à ces personnages là de se remettre en question par rapport aux autres aussi, de dire bah oui mais en fait moi est-ce que je pourrais pas aussi à un moment donné me projeter un petit peu et être empathique tout simplement, et en fait c'est tout ça qui est hyper intéressant. Et vraiment, en fait, le fait d'avoir en plus un prisme de lecture avec ce personnage de Gillian Anderson qui réapparaît régulièrement dans la série parce que c'est la mère d'Otis et qui vient régulièrement remettre une couche là où vous y attendiez pas, c'est hyper intéressant. Voilà, moi vraiment, je vous le dis, c'est une vraie très très bonne série. C'est une série britannique, je l'ai peut-être pas dit, mais voilà. Et du coup, elle est beaucoup plus libre que les séries américaines.
C'est ce que j'allais dire, en
fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit des gros mots, hein, au Royaume-Uni, on n'a pas peur. Par exemple, vous voyez, donc le phrasé est un peu plus réaliste que dans les séries américaines où vous avez l'impression que les ados ils parlent comme s'ils avaient 70 ans et qu'ils étaient devant un Jeopardy. Voilà, donc c'est pour ça, donc je vous le dis, c'est hyper intéressant ce côté-là aussi. Voilà, donc Sex Education, vraiment, et moi je suis preneur de vos retours. Ouais.
Et ben voilà, et ben je crois que normalement la technique ça devrait fonctionner avec ce qu'on a fabriqué. Et ben on se retrouve tout de suite après la musique. Thank you.
Et c'était Tilassine avec le titre Vivaldi and 74 Musicians.
Et on est dans quelle émission ?
Bah, laisse-moi venir. On est donc dans la causerie sur Radio Canu, ou 102.2, ou radiocanu.org.
Ah, bah voilà.
C'est tout à fait ça.
C'est exactement ça.
C'est chiant. Hein.
Ouais.
Ah, oui.
Ben,
moi, je le dis.
Moi, j'ai plus de téléphone, donc c'est toi qui vas faire les brèves, Fab.
Alors, mercredi 25, il y a le lancement d'ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières. Ah, il y a de la musique aussi. Bah voilà, c'était bien. Donc je recouvre,
Oui, vas-y, je vais seconder la
technique. Mercredi 25, c'est le lancement d'ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières. Donc c'est de 17h à 19h. Et donc c'est à l'Illégalité à Villeurbanne. Donc c'est à côté de Cusset, vous ne pouvez pas rater l'Illégalité. Voilà, donc ça c'était le 25. On a aussi un rassemblement de soutien aux 5 antifascistes inculpés pour le murage du local du Bastion Social. Donc voilà, ça c'est le 26 octobre. Et c'est devant le tribunal de grande instance de Lyon, alors je ne sais plus du tout où est le TGI.
TGI, c'est les 5 colonnes.
Je crois que c'est les 24
colonnes. Ah, les 24 colonnes.
Il y en a 24.
Non, mais oui, non, TGI, c'est pas. Non, je ne sais plus. C'est
ouais,
pas la grande instance, ça ne dit rien. Non, c'est celui qui est pas vers Guichard, place Guichard.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, vous cherchez TGI de Lyon, j'arrive pas à le retrouver. Je
ok.
C'est les 24 colonnes.
Ah, c'est ça,
ouais, donc c'est ça.
Colonnes, c'est
donc voilà, c'est devant, et bon, bah, il faut y être le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire, je crois, à partir de 8h30, 9h du matin.
Et voilà. C'est quand ça?
Et c'est le 26. Voilà. Ah non, pardon, 13h30, parce que ça a été décalé. J'ai vu, parce que là, le brève est en deux temps. Et donc, dans le deuxième temps, il précise que ça a été décalé. Donc, c'est à partir de 13h30, le 26 octobre, au TGI de Lyon. Jeudi.
Ok, très bien.
Voilà, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Sinon, après, nous avons aussi une dernière brève à vous donner, parce qu'elle est très très importante. C'est bientôt Halloween et on s'en fout. Voilà.
Effectivement, très bien. Donc, très bonne information.
C'est
de la plus haute importance.
Soit au courant.
Effectivement. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Ouais.
On va se quitter en musique. Mm-hmm. On va rester sur du rythmé. Hein. Et je vous invite à pousser les meubles. Parce que c'est un peu un ode à danser, à s'aimer et tout ça. Donc, c'est le tout nouvel extrait du tout prochain album des Idols. Je l'ai déjà fait écouter dans la causerie, évidemment.
Ouais. Et si vous regardez Sex Education, il y a un morceau des Idols dedans.
Ah ouais ?
Ouais.
Je me souviens plus.
Saison 2.
Ah ouais,
épisode
okay.
4.
Ok. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, là, c'est le titre Dancer, c'est des Idols. Et ils sont accompagnés de deux membres du groupe LCD Sound System. Et donc voilà, donc Dancer. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22h, 23h,
oui,
sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, bon courage pour la semaine à venir. Et puis, bah, des bisous. À bientôt.
À bientôt. À la semaine prochaine. Des bisous.
Ciao, ciao.